philo. L'heure philo en ce 24 décembre, Henri-Marc Mutel est à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka choisit les disques et Florian Dorimini est à la console. Jules et Charles Pépin sont ce soir nos invités.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Charles Pépin, bonsoir.
Bonsoir.
Jules, bonsoir.
Bonsoir.
On se dit pas encore joyeux Noël. Charles Pépin, une semaine de philosophie, les philosophes sur le divan, ceci n'est pas un manuel de philosophie, autant de livres que vous avez écrits. Il y a aussi les lundis philo au MK2 Hautefeuille à Paris. Et puis votre participation à Philosophie Magazine, à Psychologie Magazine. Ça vous va, ça?
Ça me va, je m'arrête très
là.
Bien.
Jules, vous êtes dessinateur. Là, je remonte à 2007.
Oui.
Prix Goscinny, avec Il faut tuer José Bové. 2 ans plus tard, naissance de Silex and the City, adapté en dessin animé sur Arte. Vous êtes dessinateur assurément dans la grande librairie de François Bunel. Et vous voilà tous les deux co-auteurs de La Planète des Sages. C'est une nouvelle édition complète d'un album qui a déjà connu un grand succès. L'idée de départ, mis à part votre duo, mais l'idée de départ, c'était de désacraliser en quelque sorte la philosophie, de la dépoussiérer un peu.
Oui, alors d'abord il faut dire que l'idée de départ est de Jules, donc il va peut-être mieux répondre. Mais en fait, moi j'aime bien l'idée de maintenir quelque chose de sacré quand même,
mais
en le réconciliant
aussi.
Avec, au fond, je dirais plutôt que désacraliser, ce qui m'intéresse c'est la quotidienneté, c'est l'existence quotidienne. Et je pense qu'on peut faire venir les grands philosophes dans l'existence quotidienne pour nous aider à monter une étagère IKEA, pour nous aider à décider de ce qu'on prend au restaurant, mais...
Oui.
Il demeure sacré.
Mais vous convoquez qui puissant. Alors pour monter une étagère, par exemple?
Descartes, par exemple.
D'accord.
Le discours de la
d'accord.
méthode, c'est un petit peu comme un mode d'emploi made in China. Et à vrai dire, ce qu'on a eu envie de faire, justement, dans cette espèce d'énorme promenade à travers 3000 ans de pensée mondiale.
Avec des portraits de philosophes et puis aussi de
alors, courants philosophiques. Alors on rentre à chaque fois par des philosophes, essentiellement. Il arrive parfois que ce soit des grandes écoles de pensée, etc. Voilà, les cyniques. Bon, mais c'est chronologique, justement, dans ce... Parce que là, c'est une somme, finalement. Ça pèse 2 kilos quasiment, c'est un gros album. Et donc La Planète des Sages, cette intégrale, permet en fait de se promener de manière chronologique depuis les penseurs antiques, de aussi bien, pas seulement les philosophes d'ailleurs, les penseurs, c'est-à-dire qu'il y aura aussi Jésus, Bouddha...
Et le Petit Prince.
Petit Prince, c'est un petit clin d'œil.
C'est un clin d'œil, mais enfin, il est quand même à la fin du livre.
Mais jusqu'à Bourdieu ou Chomsky. Et tout ça, finalement, dialogue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est se dire que, précisément par l'humour, parce que si on décrit cet album, il est un petit peu bicéphale parce que d'un côté, il y a une page de bande dessinée, ou alors c'est moi qui suis rentré dans l'œuvre d'un philosophe,
à
travers un de ses grands concepts ou un de ses grands éléments de sa pensée, à gauche, et en regard, Charles Pépin, à qui j'ai fait appel justement parce qu'il avait cet esprit critique et à la fois cette profondeur philosophique, commente d'une certaine façon, réagit à la page de bande dessinée. Et ce côté un peu bicéphale permet justement d'avoir un dialogue plus que philosophique. D'un côté, il y a vraiment l'humour, et de l'autre côté, je dirais, une forme d'approfondissement, et très souvent, ça s'inverse aussi, parce que finalement, l'intuition du concept, tel qu'il peut être saisi dans tel ou tel philosophe, c'est pas évident de faire des bandes dessinées marrantes sur Schopenhauer ou Kierkegaard. Et
en Schopenhauer, fait, qu'est-ce qu'il prend
Voilà, mais ça fonctionne, et du coup, ça les rend à la fois familiers et désirable. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que très souvent la philo, il ne s'agit pas de désacraliser, mais il y a une espèce de paroi de verre qui fait qu'on a l'impression que c'est une science élitiste, éventuellement on l'étudie un petit peu en terminale pour le bac, et puis basta cosi. Alors qu'en fait, ils nous appartiennent tous. Et bon, que ce soit des gens qui sont bien plus célèbres, Platon, Montaigne, ou des gens un petit peu plus pointus, qui nourrissent les débats d'aujourd'hui, parce que La Planète des Sages, c'est des philosophes morts et des philosophes vivants.
Ça
sur
va,
l'identité
seul, là,
sexuelle,
c'est
une Judith Butler, par exemple, qui est avec les extraterrestres dans ce livre, ou sur la condition animale. On parle beaucoup, justement, de la maltraitance animale, de toutes ces questions-là. Un Peter Singer, aujourd'hui, il apporte ça aussi. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire.
Gilles Deleuze.
Il est vrai que parler a beaucoup de sens. Mais pour moi, parler ne peut avoir qu'un sens. Parler, ça peut vouloir dire que chacun s'exprime. C'est le contraire de la philosophie. Il y a un très beau texte de Platon dans un dialogue avec Socrate. Où Socrate dit, c'est quand même curieux ce qui se passe. Il y a des sujets sur lesquels personne n'ose parler, à moins d'être compétent. par exemple, sur la fabrication des chaussures ou sur la métallurgie. Et puis, il y a une masse de sujets où tout le monde se croit capable d'avoir un avis. Et hélas, cette masse de sujets sur quoi tout le monde croit capable d'avoir un avis, et qui dès lors sont agités particulièrement avant ou après dîner, ou pendant le dîner. Hein, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Quel est ton avis? Ça couvre précisément ce qu'on appelle philosophie. Si bien que la philosophie, c'est la matière où tout le monde a une opinion. Hein. Savoir si Dieu existe. Ça, on peut toujours en parler au moment du fromage. Est-ce que Dieu existe? Chacun a un avis sur une question comme ça. Chacun a son truc à dire. En revanche, à la fabrication des chaussures, là, on est beaucoup plus prudent parce qu'on a peur de dire des bêtises. Mais blague sur Dieu, on n'a aucune peur de dire des bêtises. Hein, c'est quand même curieux. Là, Socrate, il a saisi à l'aurore de la philosophie, il a saisi quelque chose qui était parfait. Pourquoi? Pourquoi? Si on comprenait ça, on comprendrait tout.
Je pense que ce soir, dans les dîners familiaux, il sera plus question de Dieu que de la fabrication des chaussures, vous pensez ça? Il y a aussi une façon, tout le monde s'approprie effectivement les choses, et surtout que la philosophie aujourd'hui, elle est quand même un peu vulgarisée, plus qu'elle ne l'était en tout cas. Et c'est toute la différence, Charles Pépin, entre l'opinion et le savoir.
Oui, alors il y a une phrase de Platon que j'aime bien qui dit « l'opinion est du genre du cri ». Ça veut dire que souvent on a une opinion, on croit qu'on a une opinion argumentée, alors qu'en fait ça fait qu'exprimer un conditionnement social, familial, géographique parfois. Et la philosophie, c'est toujours de mettre un peu de distance et d'adoucir un peu ce cri. Et dans cette bande dessinée, La planète des sages, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que même si c'est léger, même si c'est drôle, enfin, c'est grâce drôle, à Jules, c'est quand même, il y a quand même des arguments. Alors, on n'est jamais dans de l'opinion. On peut être dans du parti pris, il y a des philosophes qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins. On s'engage, mais on est toujours dans l'argumentation. Je voudrais juste dire une chose importante que m'a inspiré le fait d'écouter Jules tout à l'heure. C'est que ce qui a été génial pour moi, c'est de partir du dessin. Puisque en fait, on a eu une démarche assez étonnante. D'habitude, c'est plutôt le philosophe qui écrit et le dessinateur qui illustre. Là, c'est le contraire. Il se trouve que Jules connaît aussi pas mal la philosophie.
Oui, donc, parce que Jules, lui... quand même, vous êtes normalien, c'est ça? Vous avez une agrègue d'histoire?
Voilà, alors je viens plutôt de l'histoire, mais j'ai beaucoup baigné dans la philo.
Vous avez rencontré la philo à un moment donné.
Voilà, et puis j'avais une petite vengeance à prendre, parce que j'avais eu, quand j'avais passé les fameux concours pour les grandes écoles, il y avait notamment une épreuve de philosophie pour laquelle j'avais eu 2 sur 20. Et donc, voilà, c'était un affront à laver, parce que j'avais pas l'impression que j'étais spécialement nul à l'époque. Et donc, j'ai évidemment dévoré ces œuvres. Il y en avait certains auteurs parmi les 150 qu'on trouve dans cet album que j'avais lus, et d'autres, évidemment, dont je connaissais pas la pensée. Et donc, de se replonger là-dedans, ça a été un travail un petit peu à la fois de termite dans la poutre, et puis en même temps, cette petite sueur-là, on en a essayé d'en faire quelque chose de magnifique.
Mais ces dessins, les dessins de Jules, Charles Pépin, vous ont électrisé, en quelque sorte?
Exactement. C'est-à-dire que moi, donc, c'est plus que Jules mon métier. Voilà, j'enseigne au lycée depuis plus de 20 ans. Et j'avais jamais vraiment vu Descartes dessiner comme ça, par exemple. J'avais jamais vu Kant dessiner comme ça. J'avais jamais vu Nietzsche dessiner comme ça. Alors ça a eu un effet étonnant, c'est de me faire parler d'eux différemment. D'avoir, même pour moi, un accès différent à leur philosophie. Mais ce qu'il faut quand même préciser, pour qu'on comprenne le concept de cette intégrale, La planète des sages, c'est qu'au fond, il y a 2 types de dialogue entre nous. De temps en temps, il fait un dessin très drôle, mais qui s'avère être en plus... très lumineux et très pertinent philosophiquement, selon moi. Dans ce cas-là, je vais dans son sens et je joue plus le prof académique, j'explicite la philosophie, je la contextualise.
Mais parfois, vous défendez le philosophe qui est attaqué.
Et parfois, je dis que c'est injuste qu'il ait attaqué de façon trop partiale, voire que Jules peut-être se trompe sur ce que c'est que le philosophe. Par exemple, dans le cas de Nietzsche, il fait un Nietzsche qui s'énerve contre un poulet et qui dit « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort », avec, je crois, avec un club de golf ou une batte de baseball, je sais plus. Et au fond, j'ai trouvé ça injuste pour Nietzsche, parce que Nietzsche, c'est quelqu'un qui adore penser qu'il y a qu'une différence de degré entre l'animal et l'homme. Nietzsche, c'est quelqu'un qui pense que plus on se penche comme ça sur le vivant, plus on pense profondément. Donc, il aurait jamais fait ça, ce pauvre petit poulet.
Et oui. En revanche, parfois, il surenchérit.
Qu'est-ce que vous avez contre Nietzsche?
Ah non, mais en fait,
et la philosophie à vrai
dire, moi, c'est un philosophe qui compte beaucoup, d'ailleurs, dans notre démarche aussi, parce que c'est quelqu'un qui a énormément parlé du rire et de la philosophie et du pouvoir extraordinairement philosophique, justement, de cette attitude-là du rire et de cette distance que ça procure et de cette immédiateté. Mais par exemple, je pense à un philosophe comme Badiou, en fait, hein, dont on a un petit peu explicité, développé la pensée, mais qui, dont je me moque d'une certaine façon un petit peu dans mon texte. Et Charles Pépin a surenchéri parce qu'évidemment l'engagement pro-Pol Pot, pro-Khmer Rouge, pro-chinois, absurde de Badiou à plein des égards, tous ces errements historiques justement dans l'actualité, du philosophe médiatique d'une certaine façon, bah, c'était marrant de le mettre en lumière.
Mais vous avez des retours d'ailleurs? Vous avez des gens qui vous ont dit ce qu'ils pensaient de,
oui, il y a eu Michel
de leur caricature.
Alors Michel Serres était un grand fan en fait de notre travail.
Vous l'épinglez, mais très gentiment, Michel Serres quand même. On sent qu'il y a beaucoup de respect.
On l'épingle pas. On l'épingle pas vraiment.
Pas tant que ça.
Disons qu'on
on fait résonner un petit peu son attitude et sa pensée. Bien sûr, on ricane comme toujours parce qu'on est des garnements. Mais effectivement,
c'est pour ça qu'on vous aime.
L'idée de toute façon, et c'est pas un tribunal non plus. C'est-à-dire, c'est vraiment de donner à disposition du lecteur cette espèce d'immense boîte de couleurs avec lesquelles il peut rentrer dans la philo, justement, par tel ou tel œuvre. Il s'agit de comme un marchepied pour aller vers les œuvres aussi. C'est-à-dire qu'on est... bien sûr, on plaisante en disant, voilà, un résumé de 3000 ans de pensée mondiale en un seul album. C'est en partie vrai, mais évidemment, c'est un clin d'œil. On essaye d'amener les gens, par leurs envies, vers les lectures.
Le noir aussi est une couleur. Retour au noir, Back to Black, Amy Winehouse sur France Inter. Un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique, deux fois disque de platine.
Martin.
Charles Pépin et Jules sont ce soir nos invités pour La Planète des Sages. C'est une nouvelle édition complète de l'Encyclopédie mondiale de philosophie et c'est paru chez Dargaud. Si vous êtes en panne de, de cadeaux.
Bah d'ailleurs, vous êtes en train d'écouter cette émission. Voilà. Il vous manque un truc. Voilà. Arrêtez, laissez les huîtres en plan dans l'évier.
Dépêchez-vous.
Laissez fondre la bûche. Il y a encore un plan B de secours.
C'est Jules qui vous le dit, mais ça pourrait être Vladimir Jankélévitch, philosophe, moraliste, musicologue français, et vous ajoutez Charles Pépin, juif et résistant, qui s'est interrogé sur la nature de nos vertus et de nos fautes. Œuvre majeure, l'ironie, l'imprescriptible ou encore traité des vertus.
La surnature en nous, c'est la force de dire non, de répondre non à ce qui sollicite le oui, de dire non au oui et non point de dire oui à oui. En somme, si vous voulez, les choses tentantes, les objets du plaisir me sollicitent pour me faire dire oui. Elles me conseillent, elles me recommandent persuasivement de dire oui par la voix du flatteur, par exemple. Les flatteurs veulent me faire dire oui et le chant des sirènes. Pas qui veut également faire dire oui à Ulysse, le parfum de l'apparence et le bel incarnat de l'apparence, tout conspire à nous faire dire oui, si bien qu'entre l'objet tentant, la voix des sirènes, les paroles de miel, du flatteur, le fruit d'or, et nous, il y a une zone intermédiaire, l'intermédiaire de la zone sensible, de la zone affective, qui est l'intermédiaire par lequel passent l'exhortation pressante adressée à ce pouvoir arbitraire et capricieux de la liberté dont j'ai dit qu'il était le pouvoir de dire non, pour que cette liberté acquiesce, pour qu'elle consente, pour qu'elle dise oui au oui.
Jankélévitch, bel orateur, mais qui savait écrire, oui, chose rare, avec une musique des mots, musicologue, hein, Charles Pépin, vous le rappelez dans...
Oui, et puis on entend sa voix très particulière. Moi, ce qui m'intéresse chez un philosophe, c'est ce qui ne ressemble à aucun autre, c'est sa singularité, et c'est pour ça qu'il y a une vision du monde qui est portée, et on l'entend dans cette façon de parler. Et là, j'ai face à mes yeux la page qu'on a faite sur Jankélévitch, avec le dessin de Jules et comment Jules a dessiné Jankélévitch.
Vous avez imaginé des scientifiques qui observent des organismes monocellulaires, c'est ça ?
Oui, c'est ça, on va aux origines moléculaires de Jankélévitch, justement.
Petite molécule dit un concept de Jankélévitch, l'irrévocable, l'irréversible, l'inachevé, le je ne sais quoi. Et c'est assez représentatif de notre travail, parce que malgré tout, somme toute, lui avec son dessin et moi avec ma pédagogie, on va dire, on a quand même essayé de dire quelque chose de vrai sur la singularité de chaque figure. Voilà, donc Jankélévitch, c'est quand même un philosophe très important du siècle, et moi je me sentais vraiment la responsabilité de faire œuvre de pédagogue et de dire voilà, si on devait retenir qu'une chose de lui... Qu'est-ce que ce serait? Et si on devait donner envie au lecteur d'aller voir plus loin, quelle première fenêtre il faudrait ouvrir?
Et vous vous reconnaissez dans l'ironie de Jankélévitch qui n'est pas la moquerie, hein?
Ah oui, j'adore cette idée. Vous savez, c'est Jankélévitch qui disait deux phrases qui m'ont beaucoup guidé. La première, c'est l'ironie, c'est un pari sur l'intelligence de l'autre. Alors que la moquerie, c'est plutôt un pari sur le fait qu'il va pas comprendre et qu'on va se moquer de lui. Et il disait aussi, l'ironie tend la perche
à celui qui est l'égard.
Ça veut dire que d'un côté, tu es taquin, tu joues un peu, et en même temps, tu proposes une sortie par le haut. Et il a repris donc un geste socratique qui était de faire réfléchir par l'ironie. Et au fond, c'est aussi ce que fait Jules avec son dessin. D'ailleurs, parfois, on a un peu interverti les rôles. J'ai essayé d'être drôle aussi, et Jules d'être philosophe.
Mais pas triste, hein, pas triste. Il avait un côté radical aussi, hein, Jankélévitch. Le fait qu'il a décidé à un moment donné
de ne plus
lire aucun
finalement.
Auteur allemand, etc.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça, parce que dans notre contexte actuel, en fait, finalement, de ténèbres, d'égarements dans des sociétés hagardes, on voit bien que nos quotidiens nous pressurent, qu'en fait, ces deux années qui viennent de s'écouler, cette espèce de chaos mondial, de crispation atroce, de paysage politique calamiteux, fait qu'on perd un peu le chemin, hein, comme dirait Dante. Et du coup,
ça fait toujours bien de citer ça ce soir, au dîner, ça peut être, on perd un peu le chemin, comme dirait Dante.
Voilà, c'est à la croisée, à la croisée de nos vies, au mi-temps de nos vies. Et en fin de compte, ce genre d'album, ce genre de projet, justement, vise à ça, c'est-à-dire à la fois par le rire et par la réflexion, à se redresser d'une certaine façon, passer dans une position de verticalité par rapport à une horizontalité contrainte de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous inquiète. Et le rire, justement, c'est aussi une respiration, une dignité, une humanité. Et peut-être que le fait d'avoir fait appel à tous ces philosophes d'horizons, d'ailleurs, de pensées différentes, de civilisations différentes, et qu'il y ait Averroès et Maïmonide et Thérèse d'Avila, qu'il y ait Lao Tzu, Chomsky et Kierkegaard ensemble et qui discutent et dont ces pensées, justement, ont une vertu fertile, c'est exactement le contraire de l'ineffable stupidité de l'essentiel du débat politique pré-présidentiel. Un livre comme ça, d'une certaine façon, ça aide à voter hein, aussi.
Alors juste une petite remarque sur ce que dit Jules et sur Yankelevitch. En fait, on fait quand même de la philosophie morale. Alors, faut pas, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire comment penser, mais dans la tradition philosophique, il y a la métaphysique, il y a la philosophie des sciences. Et la philosophie morale, c'est une philosophie qui cherche à dégager des vertus pour vivre au quotidien, pour faire une philosophie pratique. Et moi, c'est exactement ce qui m'intéresse. Comment on va pouvoir vivre grâce à ce philosophe? Qu'est-ce qu'on va en faire dans l'existence concrète? Et quand j'ai fait cette bande dessinée avec Jules, j'avais pas encore lancé mon podcast qui après s'appellerait Philosophie pratique sur Spotify. Et c'est un mot qui est dans cette tradition de la philosophie morale, Kant, Yankelevitch et d'autres. L'idée, c'est quand même pas simplement une pure spéculation théorique, c'est comment tu vas vivre ton histoire d'amour, ton histoire d'amitié, comment tu vas mettre ton bulletin de vote dans l'urne, et essayer de faire tomber comme ça les idées du ciel sur la terre pour nous aider à vivre au quotidien.
Alors le livre s'ouvre sur Maître, comme un maître, comme une maîtresse, Maître Carré, autrement nommé Diogène. Diogène, ça prend un I et pas de Y, pour tous ceux qui hésitent. Diogène le cynique ou Diogène le chien, c'est Michel Onfray qui en parle dans leur philo.
Antisthène passe pour le père de Diogène d'un point de vue du cynisme, mais Antisthène est quelqu'un de beaucoup plus austère, de formé à la tradition du premier stoïcisme, enfin quelqu'un qui ne va pas aussi loin que Diogène. Diogène, pensez-vous, onaniste, pétomane et cannibale, en voilà un qu'on ne peut pas convier comme ça au moindre des banquets. Platon se réunissait avec ses amis à l'académie, Aristote au lycée, les stoïciens au portique, la stoa, les épicuriens au jardin. Et comme il y avait toujours des lieux, comme d'aucuns se réunissent au flore ou au demain, eh bien, les cyniques se sont dit, à l'époque où ils ne s'appelaient pas comme ça, on va se retrouver quelque part, nous, dans un endroit qui sera éminemment subversif. Et ça a été le cimetière pour chien, puisque Lukinos en grec signifie chien, et le cimetière pour chien était le lieu où ils se retrouvaient. C'est une hypothèse. Une deuxième hypothèse, c'est que le philosophe cynique a voulu faire du chien un emblème, un modèle philosophique, une figure philosophique en quelque sorte. Le chien, c'est celui qui mord, c'est celui qui aboie, c'est celui qui est errant, c'est celui qui copule sur la place publique sans souci du qu'en dira-t-on, évidemment. C'est une figure à imiter. Voilà les raisons qui font qu'on a parlé de cynique, donc les gens qui se sont comportés comme des chiens.
Diogène, pour vous, un modèle de pédagogie?
Quand même pas, il est un peu trash. Hein.
Il est très trash.
Évidemment, Diogène, c'est une figure de la radicalité.
On va dire qu'il a remis en cause les fondamentaux, non?
Disons qu'il a proposé quelque chose comme un retour à la nature, à la pulsion, à l'instinct, avec l'idée que tout ce qui est civilisé, au fond, édulcore la vérité de la vie. Donc on connaît l'anecdote fabuleuse, hein, alors qu'il commence à avoir une belle réputation, Alexandre veut savoir qui c'est, il va le voir, et puis qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux te donner, Diogène, tout le monde me parle de toi. Et donc Diogène est allongé comme ça et il dit juste... au toit de mon soleil. Voilà, c'est et donc dans le dessin de Jules, Diogène.
Donc il évalue le tonneau à un mètre carré à peu près.
Voilà, parce que en fait il habitait dans un tonneau. C'était ça aussi. On dit il avait installé une espèce de tonneau au milieu du passage à Athènes et il dormait dans son tonneau. Et en fait c'est le tonneau le plus cher au prix du mètre carré à Athènes à ce moment-là. Il se lance dans une espèce d'entreprise immobilière et il fait fortune. Donc ça inverse évidemment complètement la pensée de Diogène, et c'est par ça qu'on peut rentrer vraiment dans les arcanes de ces intuitions fabuleuses.
950 euros le tonneau.
Le centimètre carré.
Le centimètre carré. Mais ce qui est chouette, je trouve, c'est que, évidemment, vous vivez dans le 21e siècle, donc tout est vu à l'aune de notre siècle. Par exemple, vous imaginez, Jules, un masterchef autour de Platon, c'est évidemment en référence au banquet. Et alors, il y a qui mange cachère, qui mange vegan, qui mange sans sel.
Et voilà, il y a le sans gluten, etc. Et donc, si on convie tous les philosophes qui sont soit des gens qui à grand appétit, ou au contraire des gens beaucoup plus austères et frugaux autour de ça, ça fait leurs pensées se percutent. Et de la même façon que ce soir à la table de Noël, il va y avoir ceux qui veulent pas manger des huîtres, ceux qui sont véganes, ceux qui ont toutes sortes d'interdictions, qui vont échanger malgré tout, se réunir, c'est un peu aussi une image de ce que c'est que le débat public, que ce que c'est que une société. Et en fait, moi, et je pense que Charles aussi partage ce goût-là, l'appétit des autres et le plaisir des autres et de la lecture et de l'enseignement est fondamental dans ce qu'on a envie de faire dans notre travail. L'humour, c'est ça. C'est-à-dire que l'humour, il n'est pas tout seul. C'est profondément relationnel. Une blague, elle est faite pour être partagée, écoutée. C'est pas comme si j'étais juste un artiste qui créerait dans une espèce de vide cosmique une œuvre qui en soi serait belle ou intéressante. cette dimension relationnelle, elle compte beaucoup et elle est vraiment présente dans la planète des sages, je trouve.
Vous signez, vous co-signez
Oui, je suis d'accord. Il y a aussi cette idée de créer un monde commun et d'entrer dans le monde de l'autre par une belle curiosité qui peut être allumée par l'humour. Et il faut quand même pas oublier qu'on est très auto-centré. Hein. Et ça fait du bien.
Vous parlez de vous deux en particulier,
non,
ou des
nous,
gens en général.
Les humains, on est très. Des études ont montré que si on prend les pensées des gens, elles ont pour objet, pour 90% eux-mêmes chaque jour, hein, leur petit confort, leur réussite, etc. Et ben, quand on s'intéresse à un philosophe, quand on s'intéresse à quelqu'un, on est un peu délivré de cette obsession du moi, et c'est ça la belle vertu de la curiosité.
Alors, pour montrer jusqu'où vous pouvez aller, parfois, vous écrivez plus bel espoir du foot mondial, petite frappe tyrannisant les autres joueurs, réclamé par tous les club de la planète, Ballon d'Or pour la deuxième année consécutive, jamais chopé avec une pute mineure, mais n'ayant pas encore réglé son problème avec son père. C'est qui ? C'est Freud. La colle. Bah. Vous poussez le bouchon. Il y a des gens qui vont sursauter à lire ça.
Oui, parce que le point de départ, c'était justement, parce que moi, j'ai presque un travail crypto-lacanien hein, dans mon travail. Le titre, La planète des sages, c'est déjà une espèce de petit décalage, de petit lapsus par rapport à un grand objet de pop culture. Et donc, le point de départ de la page sur Freud, c'était les transferts. Et donc, à la fois les transferts dans le monde du football, évidemment,
et les transferts
en cure psychanalytique. Et cette chose-là, donc c'était voilà, un petit clin d'œil, point de départ, qui a permis de raconter beaucoup de choses.
Et puis, évidemment, c'est l'occasion ensuite... Parfois, pas toujours, je mets ma casquette de prof, on va dire sérieux, et je prends juste un tout petit prétexte dans le dessin de Jules pour faire un petit cours de philo sur ce qui se passe dans le transfert, ce qui se passe sur le divan, ce qui se passe quand on rêve, ce qui se passe quand on déplace comme ça des images dans le rêve. Parce que dans le dessin de Jules, on a en fait un analysant qui est sur un divan et puis Freud qui lui dit « Ah, vous savez, moi, les transferts ». Donc parfois, c'est juste un prétexte pour faire un petit cours de philo ludique et accessible. Puis parfois, on rentre vraiment dans le débat.
Mais c'est les situations, en fait, dans lesquelles vous mettez les personnages qui sont très comiques, en fait.
Oui, et à chaque fois, on essaie que ce soit très différent. Parfois, c'est une rencontre, parfois, c'est un gag, parfois, c'est une percussion. Et il faut que les pages ne se ressemblent pas non plus. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas avoir un esprit de système, de dire, voilà, il y a une recette pour arriver vers tel ou tel philosophe. À chaque fois, c'est plutôt l'œuvre et le philosophe lui-même qui nous suggère la façon d'entrer, de lui tendre la main.
Alors, on n'a jamais bien mesuré l'influence de la mère juive sur le développement du christianisme, là aussi, âme sensible, s'abstenir, c'est page 40, hein, vous pouvez y aller directement.
Oui, la passe sur Jésus, c'est très Woody Allen.
Ça, comme vous dites, alors Jésus philosophe, déjà.
C'est quand même assez marrant, parce que avec le recul, parce qu'il y a eu un tome 1, un tome 2, ça c'est enfin l'intégrale, on a quand même été assez radicaux et on a pris des risques et finalement personne n'a trop mal pris. Hein. C'était votre question de tout à l'heure. Est-ce que Alain Badiou nous a téléphoné? Est-ce que des catholiques se sont... En fait, pas vraiment. Comme on le fait avec tendresse, avec légèreté et aussi avec une sorte d'empathie. C'est-à-dire que c'est toujours une manière de rentrer dans l'œuvre du philosophe. C'est une manière d'ouvrir une porte, d'ouvrir une fenêtre. Ça. Et donc, finalement, on ne s'est pas fait trop d'ennemis.
Et Marie qui dit à Jésus, mets ton suaire, sinon tu vas attraper la mort.
Voilà. C'est ça.
Il faut le faire quand même.
C'est la mère juive la plus célèbre de l'Antiquité, finalement.
Mais il était révolutionnaire, Jésus ?
Ah bah oui, évidemment.
Aimez-vous les uns les autres, c'est révolutionnaire ?
Ce message d'amour, c'était un message absolument révolutionnaire qui a cassé l'histoire en deux. D'ailleurs, qu'on pense que Jésus soit le fils de Dieu ou simplement un prophète inspiré, jamais personne n'avait dit ça. En fait, le message le plus révolutionnaire de Jésus, et c'est ce qu'on explique dans La planète des sages, dans cette double page sur Jésus, c'est de dire que le royaume de Dieu, il est déjà là. C'est que nous sommes dedans dès lors que nous sommes capables de transfigurer nos affects de haine en affects d'amour. C'est pas du tout ce que dira après saint Paul pour fonder la religion chrétienne, à savoir comportez-vous comme ça et vous gagnerez votre place plus tard dans le royaume de Dieu. Le message de Jésus, qui est une sorte de moine bouddhiste hippie, est de dire il suffit d'ouvrir votre cœur et vous êtes déjà dans le royaume de Dieu.
Attention, là, il est encore un peu tôt, mais Charles Pépin vient de commencer la messe de Noël.
À l'amour, Jean-Louis Murat sur France Inter.
Sur mon arbre perché à l'amour. montagne, qu'est-ce que tu fais? Sur mon arbre à minuit, à l'amour derrière la jalousie, comme toujours. Sur mon arbre à minuit, à l'amour. Dans l'ordre des péchés, par amour, dois-je rentrer à pied, comme toujours. Sur mon arbre péché, à l'amour.
Martin sur France Inter.
Il y a des moments où on sent que vous êtes tout à fait en osmose, puis d'autres moments, c'est pas, enfin, vous n'avez pas le même regard, vous n'êtes pas forcément d'accord, il peut y en avoir un qui est à charge et donc l'autre compense. C'est le cas pour Heidegger, m'a-t-il semblé, non?
Oui, bien sûr. Ouais.
Où en fait, votre texte est plutôt à charge parce que Jules, lui, il a l'air...
Oui, mais alors je suggère, mais je suis pas spécialement sympa non plus parce qu'on voit en fait les différentes variations. C'est un peu une page un petit peu warholienne.
Vous voyez ces errements idéologiques, disons.
Voilà, ces errements, et on le voit habillé en Rastaman, en Disneyland, et évidemment en Asie. En gros, toutes les tenues, tous les oripeaux d'Heidegger. Et puis c'est vrai que s'il a une pensée formidablement puissante et une ambiguïté incroyable historique, mais malgré tout, on est en devoir, ou en tout cas, on a le droit de questionner et de remettre en cause ses choix aussi politiques et sa place dans l'histoire.
Après, comme Jules, son dessin est très drôle, j'en profite pour prendre un peu le contre-pied et expliquer par rapport à son engagement nazi, hein, qui a quand même duré après la Seconde Guerre mondiale.
De Heidegger, hein, pas de Jules.
Non, exactement. Et j'en profite pour expliquer un peu sérieusement, pour le coup, en quoi ce fourvoiement en fait, n'est pas un accident, mais le véritable prolongement d'une philosophie de l'enracinement, d'une philosophie nationaliste, d'une philosophie de l'exclusion de l'autre, au fond, et aussi d'une métaphysique de l'enracinement. Donc voilà, parfois, on a aussi ce contre-pied entre la déconnade et le sérieux, mais voilà, c'est... Dans le cas d'Heidegger, je pense qu'il fallait aussi expliquer un peu aux gens, surtout qu'on était en train de découvrir vraiment à quel point il avait été engagé dans le nazisme plus qu'on ne le pensait. Donc c'était intéressant aussi parfois de remettre les points sur les i, quoi.
Mais est-ce que les philosophes sont forcément des sages? Parce qu'au fond, c'est difficile pour tout un chacun de se détacher de sa condition.
Alors vous savez, ce qui se dégage de cette intégrale de la planète des sages, c'est que les sages ne sont pas si sages que ça. De toute façon, c'est ça qui est bien. Il y a une phrase de Nietzsche que j'adore qui dit « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami ». Moi, j'adore les psys qui sont très bons psys mais névrosés. J'adore les prêtres qui prêchent l'amour mais qui sont pleins de ressentiments. Et j'adore évidemment ces philosophes qui sont incapables de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils pourtant racontent et explicitent si bien.
Mais typiquement, Rousseau, il y a une page sur Rousseau justement où il fait une espèce de qui s'appelle Dédouaner Rousseau, où il fait une espèce de striptease comme ça, et sa femme qui vient le chercher en disant ouais, t'as raison de faire des essais sur l'éducation, l'Émile, etc.
Alors mais il serait
temps d'aller t'occuper un peu de tes gamins, ouais. Parce que il faisait exactement le contraire de ce qu'il avait pu professer dans ses écrits, évidemment.
Mais ce qu'on essaye bien de montrer, ça c'est vraiment un sujet important, c'est qu'il y a différents cas de figure. Il y a le miroir inversé. Donc Rousseau, c'est le miroir inversé. Il y a les autres qui sont très souvent en train de se débattre avec un problème existentiel, et c'est pour ça qu'ils en parlent très bien. Un peu comme un prêtre qui a en lui un élan vers l'amour, c'est le soir de Noël, et puis aussi du ressentiment et de la haine. Et en fait, c'est pour ça qu'il en parle si bien, parce qu'il est aux prises avec ce problème. Comme un psy qui a une névrose, qui se débat encore avec, et qui est plein d'empathie grâce à ça. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il y a des philosophes assez exceptionnels, qui sont dans la cohérence. Et on les salue aussi. Des gens comme Nietzsche, comme Hegel, c'est des gens incroyables qui non seulement ont développé une philosophie impressionnante, pour Hegel elle est systématique, pour Camus elle est plus littéraire, mais qui en plus ont des vies, alors pour Camus il y a quelques, pas toujours non plus, mais il y a quand même aussi cette espèce de d'attention à cette cohérence, à cette espèce d'exemplarité parfois entre la pensée et l'œuvre. Donc on est aussi attentif à ça. En fait, l'essentiel, c'est de donner envie de découvrir ces philosophes à travers leur humanité, leur vérité, leurs affects, leur corps. Bah, de temps en temps, ils sont dans une infidélité à ce qu'ils disent et ça les rend touchants. Et de temps en temps, ils sont assez cohérents et ça les rend admirables.
Et leur drôlerie aussi, parce qu'il y en a qui sont marrants, non ?
Il y en a qui sont marrants et c'est comme vous savez les humoristes. C'est-à-dire que très souvent il y a un fond et ça plein de gens l'ont en partage, bon dans le monde de la bande dessinée, un Goscinny, un Gottlieb, un Franquin qui sont les grands noms comme ça de l'humour avaient en eux une histoire, une part sombre, une blessure, quelque chose de vraiment de très très ténébreux qui leur permettait par justement l'humour de dépasser ça ou en tout cas de fournir une lumière rasante sur notre condition humaine qui était encore plus précieuse. Et je pense que c'est un peu la même chose parfois pour les philosophes.
Est-ce que vous vous sentez influencé ou en tout cas est-ce que vous avez du goût pour les Monty Python ? J'imagine que oui.
Oui, bien sûr.
De Charles Pépin, oui.
Oui, bien sûr.
Alors, il y a cette hilarante partie de football entre les philosophes grecs et les philosophes allemands. On va l'écouter, on va en écouter un tout petit extrait ici à la radio, mais il faut absolument aller voir ça parce que c'est vraiment trop marrant. C'est un Grèce-Allemagne d'un genre un peu particulier.
And here come the Germans now, led by their skipper Nobby Hegel. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer obviously a bit of a surprise there. And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team. As you'd expect, it's a much more defensive lineup. Plato's in goal, Socrates a front-runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes.
Alors c'est assez marrant parce qu'on les voit arriver les uns et les autres à tour de rôle sur le terrain de foot. Les Allemands, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, etc. avec des hautes formes. Et puis les Grecs en toge et personne ne veut commencer en fait. C'est ça la sagesse de pas taper dans le ballon.
En tout cas, ça correspond bien à notre approche, justement, de les mettre en situation et de les frotter, hein, comme moi j'ai une série qui s'appelle Silex and the City aussi, j'ai toujours ces images un peu du coup préhistoriques, de frotter ces pierres pour fournir des étincelles, et effectivement, d'un côté les Allemands, de l'autre côté les Grecs, c'est un peu ce qu'on a fait, là ici, la planète des sages, donc... Bon, c'est une intégrale, mais c'est l'encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies. Mais il y a un autre livre qui le complète, qui s'appelle Platon Lagaffe.
Que vous avez publié juste avant.
Voilà, qu'on a publié en parallèle, d'une certaine façon. Oui, et donc ça, c'est la théorie, la planète des sages. Et la pratique, justement, c'est Platon Lagaffe, c'est l'histoire d'un jeune stagiaire de troisième. Là, on a justement en studio une stagiaire de troisième en ce
moment. Vous exagérez de la faire venir à veille de Noël, mon frère.
Voilà, mais il n'y a pas de petit profit.
La peau.
Et donc, c'est Platon qui va faire un stage à la Cogitop, hein, qui est une espèce de grande entreprise, c'est Socrate son maître de stage, et effectivement, qui s'engueule d'un étage à l'autre dans les différents services, il y a les Grecs et les Allemands. Donc, on est extrêmement tributaire de l'humour des Monty Python pour ce genre d'approche.
Dans cette planète des sages, il y a de nouvelles voix, hein, puisque je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle édition enrichie. Vous parliez de Camus tout à l'heure, qui est quelqu'un de très important pour vous, parce qu'il est à la fois furieux, révolté, puis en même temps, il s'émerveille aussi de la beauté du monde. Il y en a d'autres. Comment est-ce que vous avez opéré le choix de ces ajouts?
Ben, on a essayé de prendre les philosophes qui pouvaient être utiles pour comprendre notre époque. Par exemple, quand on a pris Fukuyama et sa théorie de la fin de l'histoire, ben, c'était intéressant de se dire, voilà, on sort de cette époque, là, on a bien compris que l'histoire redémarrait, on a bien compris que depuis la fin de la guerre froide, avec le retour du terrorisme, depuis le 11 septembre, on pouvait plus penser comme ça que l'histoire était arrivée à un accomplissement, à un bonheur, à une sérénité. Donc on a choisi un peu en fonction de ça, en fonction des besoins de l'époque et des questions, la question du genre, la question de l'animal, la question de la géopolitique. Et ça a permis de faire un tri. On a essayé de se dire, voilà, si quelqu'un veut découvrir les philosophes d'aujourd'hui, il faut qu'il ait qui, quoi.
Vous parliez de Chomsky tout à l'heure.
Oui, voilà, là il y a une page, une double page d'ailleurs, c'est rare dans cet album, qui s'appelle Les bronzés font du Chomsky, et qui essaie d'embrasser toutes les contradictions de cette pensée à la fois riche, d'un linguiste avant tout, et aussi de quelqu'un qui est devenu une espèce d'icône pop pour toute une contestation mondiale, américaine avant tout, mais évidemment aussi européenne. Donc oui, c'est marrant de le faire. En revanche, il y a une page qui est la page consacrée au bouddhisme tibétain, hein, au lamaïsme, qui expédie d'un seul coup tous les philosophes de plateau, hein, vous en avez pas mal dans vos archives, évidemment, et donc on a à la fois Onfray, Comte Sponville,
BHL,
le Mister France Culture, là, qui fait toujours la gueule.
Finkielkraut,
etc. Bref.
Je sais pas, voilà, vous me prononcez son nom. Joyeux Noël à tous.
C'est des espèces de réincarnations comme ça qui vont très très vite, et le type est puni finalement, il est réincarné successivement dans toutes ces figures pop philo d'une certaine façon, et bon voilà, contre lesquelles on a légèrement la dent dure.
Alors on parlait de lui tout à l'heure, Michel Serres.
C'est une vieille citation de Spinoza que j'utilise souvent, le corps peut. Et j'en fais presque une définition, c'est-à-dire que le corps n'est pas, parce qu'on ne peut pas le définir, puisqu'il est métamorphique sans arrêt, il est adaptatif, il est souple, il est rapide, etc. Et je définis le corps par sa capacité. Il peut beaucoup de choses, et même il peut des choses que je ne sais pas encore, il peut des choses qu'il ne peut pas faire. Il peut quelquefois l'impossible. La preuve, c'est que certains sauteurs en hauteur sautent au-dessus de 2 mètres, et à ce moment-là, tout le monde se met à sauter au-dessus de 2 mètres. C'est pas qu'il y a le mimétisme, certainement, il y a l'entraînement sûrement, mais il y a aussi le fait que quelqu'un qui fait voir avec son corps qu'il peut quelque chose de nouveau, tout le monde découvre qu'il le peut aussi. Donc, la capacité du corps, le corps, d'une certaine manière, il n'est pas réel, il est virtuel, il est potentiel, il peut. Voilà, c'est ça. C'est presque sa définition.
Michel Serres, un penseur pas comme les autres ?
Ah oui, ça fait plaisir d'entendre sa voix. Il reprend cette phrase de Spinoza qui disait « Nous ne savons pas ce que peut un corps ». Et d'ailleurs, ce que peut un corps, c'est aussi nous faire penser. Quand Jules met en scène, il donne une figure, il donne une corporéité à ces grands esprits, c'est une façon aussi de mieux comprendre leur pensée. Et sur Michel Serres, ce qui est très intéressant, c'est son ouverture à l'histoire des sciences, au monde paysan, à la technologie. Souvent, les philosophes ont un défaut, c'est qu'ils comprennent rien à la science et à la technique, parce que c'est pas leur chemin, c'est pas leur parcours. Et donc, cette inculture, parfois, se voit, elle est très gênante, surtout aujourd'hui pour penser les réseaux sociaux, par exemple. Avec Michel Serres, on n'avait pas ça. On avait quelqu'un qui s'est assez peu trompé, et qui avait aussi une forme de malice et d'humilité. Non, j'aime beaucoup. Et
dont vous rappelez d'ailleurs qu'il a fondé la faculté de Vincennes avec Michel Foucault, ça on le sait pas forcément. La poésie de la science, c'est Michel Serres pour vous, Jules ?
Oui, parce que moi j'ai ce défaut-là, hein, c'est-à-dire que je suis un vrai littéraire pur et dur, et j'ai une vision un peu, je dirais, de touriste de l'astrophysique, des mathématiques, de la biologie. Alors moi je suis rentré peut-être justement par le côté un peu terrien, par voilà, via Silex and the City, par Darwin, par Buffon, par ces questions-là. Mais c'est vrai que une histoire des sciences, je dirais, en bande dessinée, c'est quelque chose que je serais incapable de faire. Alors que finalement, la philosophie nous donne ce marchepied aussi pour aller vers ça. Enfin, un Aristote, un Leibniz, et voilà, et plus tard un Michel Serres ont des intuitions, je dirais, de sciences dures qui nous les rendent, je dirais, à la fois plus désirables, plus sensibles. Pour des gens comme moi, c'est très profitable.
Et Newton aussi.
Ah oui, alors bien sûr, Newton, voilà, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, on dit les philosophes, mais ce sont les penseurs. Donc, il y aura un Isaac Newton, il y aura un Einstein qui est mis en scène, mais aussi, bon, tous des gens qui sont des politiques. Un Martin Luther King, qui est là
Gandhi.
Aussi, un Gandhi,
Gandhi
voilà, ouais. Et c'est des pensées imprimés dans leur époque et assez marrant à dessiner parce qu'en plus ce sont des gens du XXe siècle dont on a revu leurs photos, leurs images dans les cafés ou sur les murs des chambres d'ados et qu'on a envie de voir bouger.
Alors, c'est de moins en moins vrai, mais longtemps, la philosophie a quand même été une citadelle masculine. D'ailleurs, il faut presque prendre une loupe, j'exagère, mais pour trouver des femmes philosophes dans votre livre, incontournable Simone de Beauvoir, aujourd'hui adulée, mais qui, faut le rappeler, a été longtemps détestée.
Je connais des femmes qui n'ont pas le droit d'aller voir ni une amie, ni même leurs parents, ni qui que ce soit, sans que le mari les accompagne. Et il prétend que c'est par amour, que c'est pour tout partager avec elles. Mais c'est une véritable tyrannie. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi. Et là, je veux dire une indépendance morale, mentale. Parce que sans ça, elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent. C'est-à-dire elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Vraiment, une femme qui reste avec son mari uniquement pour l'argent, parce qu'elle n'a pas les moyens de gagner sa vie elle-même, c'est une femme qui a abdiqué vraiment sa valeur et sa dignité d'être humain. Par conséquent, moi, ce que je conseillerais à toutes les femmes, c'est de travailler, d'obtenir les qualifications les plus hautes qu'elles peuvent et d'avoir le travail le plus intéressant possible, mais surtout un travail qui lui assure l'indépendance économique.
Simone de Beauvoir, c'était en 1975.
Dans la planète des sages, on a essayé de rendre un peu justice à Simone de Beauvoir, parce que vous savez que dans sa belle histoire avec Sartre, tout n'est pas si beau. Notamment, il y a beaucoup de concepts qui viennent d'elle et qu'il s'est approprié et qui ont fait sa gloire à lui.
Enfin là, il se met sur ses genoux. Hein.
Ouais, mais justement, et Jules avec son dessin et moi avec mon texte, on a essayé de montrer que parfois c'était Simone de Beauvoir qui était première, notamment dans le succès de certaines thèses existentialistes. Par exemple, la phrase bien connue « On ne naît pas femme, on le devient », il y a la phrase de Sartre « On n'est pas homme, on le devient ». Visiblement, la formulation vient d'abord de Simone de Beauvoir, alors qu'on pense, tout le monde pensait de façon assez machiste, au fond, qu'elle avait décliné ça dans le féminisme, alors qu'en fait, c'est plutôt elle qui a pensé ça et c'est lui qui l'a décliné.
« Sex and the System ».
Voilà, ouais, c'est une transversalité de titres. Mais c'est vrai ce que vous disiez sur les femmes dans la philosophie. Elles ont été passées sous silence dans l'historiographie, dans l'histoire des idées. Probablement, il y a plein de grandes penseuses qui ne nous sont pas parvenues, justement, ou qui ont été travesties, réutilisées par d'autres. Donc évidemment, on trouve Thérèse d'Avila, mais c'est vrai que la plupart des femmes, elles viennent du XXe siècle. Une Hannah Arendt, une Simone Veil, une Judith Butler.
Voilà, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui a été à la fois forcément influencée par Beauvoir, mais qui en même temps s'est érigée contre elle.
Voilà, et c'est cette pensée vivante, voilà, très irriguée et magnifique, et qui peut circuler justement de ce côté-là aussi, de ce point de vue féminin. Voilà, probablement, si un jour on fait un prochain tome de l'actualité de la pensée aujourd'hui, les femmes auront autant voix au chapitre que les hommes, parce que ça change très très vite.
I would say that the pandemic has exposed.
Je dirais que la pandémie a mis en lumière des inégalités extrêmes, non seulement au sein de nos sociétés, mais aussi à l'échelle mondiale, entre pays.
At the same time, I would say that COVID-19.
Mais il faut rappeler que la COVID-19 est une maladie de notre monde interconnecté. Nous n'avons pas encore pris pleinement la mesure de notre interdépendance, de la porosité des frontières nationales, du fait que ce qui se passe dans une région du monde se répercute ailleurs et nous affecte collectivement. Aujourd'hui, nous sommes tous exposés à des virus qui ont émergé dans d'autres parties du globe, justement à cause des voyages internationaux et du caractère interconnectés et interdépendants de nos vies.
Butler, c'est vraiment la philosophie dans le bain de la vie, vous me disiez un petit peu tout à l'heure, c'est la conscience animale, c'est le végétarisme, c'est le genre, c'est le terrorisme, enfin c'est tous les grands sujets de notre société.
Évidemment, avec toujours cette idée comme ça de se frotter au quotidien, de se frotter au réel. Hein. Lacan disait le réel c'est ce contre quoi on se cogne, et on avait vraiment ce point commun avec Jules, malgré nos différences, d'aimer se confronter à quelque chose qui pourrait résister à l'analyse philosophique, mais qui en fait sa beauté, quoi.
C'est un sujet volant non identifié, c'est ça?
Voilà, et protéiforme, en tout cas, et changeant, comme nous, comme la vie.
Qu'éprouves-tu?
J'ai froid, monsieur.
Peur as-tu?
Non, monsieur.
Lire en toi, nous pouvons.
Sois attentif à ce que tu ressens.
Tes pensées sont tournées vers ta mère.
Elle me manque beaucoup.
Peur tu as de la perdre, je crois.
Oui, alors, qu'est-ce que ça change?
Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance.
La haine mène à la souffrance, il faudrait le dire plus souvent. Star Wars, Maître Yoda, qu'est-ce que ça vous inspire sur le plan philosophique?
Il y a un petit dessin dans l'album justement qui clôt le truc, et on voit trois stars de Star Wars qui sont assis sur un sofa comme ça. Ils lisent chacun une œuvre de philosophie. Je crois que Dark Vador lit Nietzsche, si je me souviens bien. Que lit Yoda, Charles Pépin?
Il lit Camus.
Il lit Camus, bien sûr. Bah voilà, c'est quand même une autre leçon de sagesse. Et R2D2 le robot, il lit Michel Onfray.
Alors dans le
juste un truc sur cette idée de la Charles peur Pépin qui mène à la haine. Bien évidemment, on a essayé de combattre aussi le penchant de l'époque au ressentiment, à la crispation, au repli. On a essayé par l'humour, on a essayé par la pédagogie, mais aussi en montrant que tous ces philosophes, au fond, ben, ils sont pas crispés sur leur position, ils sont pas accrochés à leur précaré, ils sont dans un immense dialogue par-delà les siècles. Et quand on a sous-titré 3000 ans
et
de pensée...
Et par-delà les frontières. Hein.
Évidemment, évidemment. Et 3000 ans de pensée, ça veut dire qu'en fait, c'est pas tellement... Il y a presque, ils sont presque contemporains, en fait. C'est comme s'ils dialoguaient tous ensemble. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous tous, dans des temps comme ça, de repli sur soi, de crispation, d'opinion identitaire, voilà. On est pour la fluidité, et puis de traverser les frontières avec une vraie jubilation. Et cette joie de l'humour, cette joie de la pédagogie, au fond, c'est ça le remède au ressentiment qui nous guette.
Il aurait pu y avoir le Père Noël, après tout, il peut aussi être philosophe, mais il y a le Petit Prince, ça mérite explication. On a déjà un tout petit peu effleuré le sujet tout à l'heure.
Oui, en fin de compte, parce que c'est un peu la pensée portative, le plus petit dénominateur commun, je dirais, de la réflexion philosophique planétaire. Voilà, les enfants lisent ça, on le trouve sur tous les continents. Évidemment, c'est aussi un objet marketing infini. On trouve à peu près tous les objets imaginables griffés du logo du Petit Prince. Et donc, voilà, c'est comme ces espèces de trucs de pop philosophie qui sont des grands best-sellers. Les Khalil Gibran, le prophète, les choses comme ça. Bon. Donc, à la fois, on en rit parce que bon, c'est un petit peu rase-moquette, bien souvent, en tout cas, dans l'interprétation que les gens en font. Et puis, en même temps, ça chatouille, ça titille quand même une envie de regarder le monde différemment, d'ouvrir les yeux. Et donc, finalement, ce n'est pas entièrement à jeter. Et c'est ce paradoxe-là qu'on a eu envie de mettre en scène. Et puis, il est marrant à dessiner Le Petit Prince. Moi, à chaque fois, je le mets dans toutes mes BD, quasiment.
Et puis, il y a une vraie question, au fond. Hein. Comment un auteur réussit-il à écrire un texte avec une telle portée universelle? Finalement, comment on trouve les mots capables de toucher les hommes et les femmes de tous les pays pendant des générations? Il y avait une vraie question, en fait.
Est-ce que vous avez un préféré, un chouchou ou une chouchoute?
Moi, j'adore Hegel, à la fois quand il est dessiné par Jules, et puis même en tant que philosophe, c'est un philosophe de l'action, de l'objectivation. Alors, dans le dessin de Jules, il y a un petit personnage qui confond taper sur Hegel et taper sur Google, et donc le pauvre Hegel se prend un coup de bâton.
Et moi, je pense que je dirais Montaigne, parce qu'à la fois, il est génial à dessiner, parce que les personnages avec des fraises et ces pourpoints comme ça du XVIe siècle, ils sont magnifiques à faire. Et puis aussi parce que on met en scène son amitié proverbiale avec la Boétie. Et donc là, il est là à Bordeaux en train de draguer sur un réseau social. Il en a ras-le-bol d'être toujours avec les mêmes. Et donc, il drague. Et finalement, l'algorithme lui propose de nouveau de draguer la Boétie. Et donc, à chaque fois, il retourne à son point de départ. Et c'est vrai que cette question de l'amitié, elle est centrale aussi dans notre livre avec Charles, parce que c'est un dialogue amical fait livre.
Même s'il y en a un qui, à 19h, boit un chocolat chaud pendant que l'autre se tape un petit verre de vin.
Mais on a réussi.
Vous avez réussi à vous réconcilier là-dessus.
On a beaucoup parlé. Ouais. On a fait une thérapie.
Oui.
Et on a réussi à accepter la différence de
thérapie de couple.
On a réussi
à accepter
l'altérité.
Et joyeux Noël.
Joyeux Noël, la planète des sages. Encyclopédie mondiale de philosophie, nouvelle édition complète, c'est publié chez Dargaud. Le seul livre qui, à ma connaissance, met en scène Lévinas chantant sur un karaoké.